Il est 19h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Les semaines qui viennent seront dures. Le mois de novembre sera éprouvant et le nombre de morts va continuer d'augmenter.
La sortie du tunnel est encore loin. Le Premier ministre place 38 départements supplémentaires sous couvre-feu. 46 millions de Français bientôt concernés. Détails et explications dès le début de ce journal.
Novembre sera éprouvant, dit le Premier ministre. Ce nouveau tour de vis sanitaire passe mal dans certaines villes. Reportage dans un instant à Strasbourg qui vient d'annuler son marché de Noël.
C'était prévu par le calendrier. Le Grenelle de l'éducation est lancé aujourd'hui alors que le monde enseignant est encore sous le choc après l'assassinat du professeur Samuel Paty.
On va te décapiter à Bron, dans la banlieue de Lyon. Le maire est placé sous protection policière après une série de tags menaçants. La présidentielle aux États-Unis, dernier débat entre les deux candidats, c'est la nuit prochaine. Et dans un instant, ce sera le carnet de campagne de Xavier Yvon.
Le confinement l'a inspiré. Paul McCartney va sortir un nouvel album enregistré en pleine épidémie. Première note avec Angèle Châtelier.
La météo, la tendance, Anissa, temps perturbé demain.
Oui, surtout dans le sud et l'est du pays, avec un ciel très couvert, de la pluie et des coups de tonnerre. Demain, les températures, elles sont toujours douces et au-dessus des normales de saison. Je vous donne tous les détails pour la météo de ce vendredi à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
38 départements viennent donc d'allonger la liste des zones placées sous couvre-feu.
Et cela représente 46 millions de Français. 46, c'est le Premier ministre Jean Castex a dit tout à l'heure qu'il n'hésiterait pas à engager des mesures encore plus dures, Adrien Beck.
Oui, alors bien sûr, la ligne officielle reste tout faire pour éviter un reconfinement. Olivier Véran, Jean Castex l'ont répété tout à l'heure. Un premier bilan du couvre-feu sera donc tiré la semaine prochaine avec l'espoir de voir déjà un début de baisse du nombre de contaminations. Un frémissement, selon les termes du ministre de la Santé. Là, les horaires de ce couvre-feu pourraient être élargis, mais sans résultat, Jean Castex a déjà préparé les esprits à ce qu'il soit nécessaire d'aller plus loin.
Si nous ne réussissons pas collectivement à juguler l'épidémie, nous ferons face à une situation dramatique et nous devrons envisager des mesures beaucoup plus dures. Il est encore temps de l'éviter, mais il ne nous reste plus beaucoup de temps.
Alors combien de temps justement? Eh bien là, Jean Castex ne s'engage pas plus. Impossible de le savoir à l'heure actuelle, reconnaît d'ailleurs un conseiller. En tout cas, au sein de l'exécutif, on invite ces dernières heures à regarder la situation dans d'autres pays européens, comme l'Espagne qui a reconfiné localement, l'Irlande qui a totalement reconfiné ou encore la Belgique qui envisage de le faire.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1.
Et parmi les départements qui passent donc sous le régime du couvre-feu, il y a le Bas-Rhin et donc Strasbourg.
Oui, même si les chiffres n'atteignent pas les seuils de certaines métropoles comme Paris ou Lille par exemple, mais le virus circule de plus en plus vite. Certains indices sont inquiétants. Arthur Mbaché, l'annonce du couvre-feu à Strasbourg ne surprend finalement personne.
C'est vrai, on va dire qu'on s'en doutait puisque ce matin, la maire de Strasbourg, Jeanne Barseguian, annonçait l'annulation du marché de Noël.
Les chiffres repartent à la hausse. Ce matin, la préfète m'a informé que le taux d'incidence pour 100 000 habitants à Strasbourg avait dépassé les 300.
La maire qui fait tout pour ne pas prononcer la fameuse phrase « Le marché de Noël de Strasbourg est annulé ». Mais bon, pas de doute, il y aura bien quelques animations et les traditionnelles illuminations. Le grand sapin aussi sera là, mais pas un seul des 300 chalets qu'on a sur les places du centre-ville tous les hivers. À peine formulée, l'information circule et les forains débarquent à l'hôtel de ville pour interpeller la maire.
Parce que ce n'est plus un marché de Noël. Sans les chalets, sans les chalets, que ce soit à la cathédrale, que ce soit à la place Broglie, c'est plus un marché de Noël si on n'est pas là.
L'année 2020, c'est une année exceptionnelle.
On est déjà au pain sec. On n'arrive déjà pratiquement plus à payer nos assurances. Il y a tous les décorateurs, ceux qui font les boules, tout ça, qui ont déjà passé leur commande depuis le mois de janvier. Là maintenant, tout le monde est au pain sec. Justement, c'est, là, vous êtes en train de
Tous les ans, le marché de Noël, c'est 200 millions d'euros de retombées économiques à Strasbourg.
Arthur Mbaché, correspondant d'Europe 1, donc à Strasbourg, le Bas-Rhin, qui, comme l'ensemble des départements placés sous régime de couvre-feu, va bénéficier d'un plan de soutien économique. Le Premier ministre l'a confirmé. Cela concerne notamment le fonds de solidarité, les exonérations de cotisations sociales et les prêts garantis par l'État.
Oui, de son côté, le monde du spectacle vivant et du cinéma va bénéficier d'un plan d'aide total de 115 millions d'euros, annonce de la ministre de la Culture, Rosine Bachelot. Le Grenelle de l'éducation a donc été maintenu malgré la mort tragique du professeur Samuel Paty. 3 mois de négociations au menu, revalorisation salariale, bien-être et protection du corps enseignant.
Et tout cela dans un contexte particulier, évidemment, vous le disiez, près d'une semaine après cet assassinat. Virginie Rival, l'idée générale de ce Grenelle, c'est bien sûr de revaloriser le statut de l'enseignant.
Oui, le ministre l'a dit, l'un des mots-clés de ce Grenelle, c'est la reconnaissance des enseignants qui passe par la revalorisation des salaires. Mais au-delà des intentions là-dessus, les réponses concrètes du ministre cet après-midi n'ont pas été très claires. Il a rappelé l'effort fait en 2021. Il versera une prime d'attractivité aux jeunes profs, ce qui équivaut à une augmentation de 100 euros net par mois. Prime censée être renouvelée les années suivantes, mais ça, nous le savions déjà. Ce que les syndicats demandent, c'est plutôt une loi de programmation ambitieuse sur 10 ans. Le ministre nous a plutôt parlé d'une vision pluriannuelle du sujet, à suivre donc durant ces 3 mois de négociation.
Et ce matin, le ministre qui recevait les organisations syndicales a donné plus de détails sur la journée du 2 novembre.
Oui, il a présenté un déroulé très précis, à savoir déjà un temps pour que les enseignants et tous les personnels puissent échanger entre eux sans leurs élèves lundi matin. Est-ce que ça implique de retarder la rentrée lundi 2 ? Là-dessus, on n'a pas encore de réponse. Pourtant, il faudra rapidement prévenir les parents. Ensuite, le ministère souhaite que chaque classe soit encadrée par 2 adultes pour une séquence pédagogique, un échange autour d'un texte ou d'une vidéo choisie par le ministère. Là, les enseignants sont inquiets car, disent-ils, ils n'auront pas eu le temps d'assimiler le matériel pédagogique durant les vacances et ils ont peur que ça mette beaucoup de pression sur leurs épaules, surtout dans certains territoires. Ensuite, chaque chef d'établissement est invité à lire un court texte, puis tout le monde respectera la minute de silence solennel qui sera forcément adaptée en maternelle ou par exemple, il faudra plutôt envisager un temps de recueillement.
Merci Virginie Riva, spécialiste éducation à Europe 1.
À Bron, un maire porte plainte après des menaces de mort.
Jérémy Bréau, on va te décapiter. C'est l'un des tags inscrits sur la palissade d'un chantier d'une commune de l'agglomération lyonnaise. Menace qui vise en réalité le maire, les Républicains de Bron. Et l'atmosphère pesante de ces derniers jours interdit de prendre la chose à la légère. Jérémy Bréau a donc décidé de porter plainte.
Première impression, ça a été plutôt de la stupéfaction et un sentiment d'effarement, surtout quand on place dans le contexte actuel hein, avec la tragédie qu'on a tous vécue avec la décapitation de Samuel Paty, l'enseignant. Une fois qu'on retrouve ses esprits, on va dire, l'idée c'est « je n'ai pas peur et on ne cédera rien ». Moi je suis un nouvel élu, donc j'ai gagné une mairie qui était gérée par les mêmes depuis un demi-siècle. J'ai été élu essentiellement sur les thématiques sécurité et assurer de nouveau la tranquillité publique. Donc on a engagé un certain nombre d'actions en l'espace de 4 mois. Donc tout ça, certainement, ça doit gêner une minorité d'individus, quoi. J'ai porté plainte en mon nom et j'ai porté plainte aussi au nom de la ville. Il faut que la justice fasse réellement son travail. Nous, on a décidé de dire que maintenant que le laxisme à Bron, c'est terminé. Et effectivement, ça ne plaît pas, mais il faut surtout rien lâcher.
Jérémy Bréau, le maire Les Républicains de Bron, dans la banlieue lyonnaise, il répondait à Laura Taouchanoff. Il est 19h09, merci d'écouter Europe 1. C'est la suite de votre journal Christophe Lamarre avec la présidentielle aux États-Unis. Europe 1, vous le savez, comme tous les soirs, dans les pas des 2 candidats à la Maison-Blanche, c'est le journal de campagne de Xavier Yvon.
I'm Joe Biden. I'm Donald Trump. And I approve this message. And I approve this
message. Europe 1 live for the American elections.
Bonsoir Xavier.
Hello, bonsoir à tous.
Xavier, nous sommes à J-12, l'Iran et la Russie s'invitent dans la campagne.
Oui, c'est le directeur national du renseignement, John Ratcliffe, qui est venu faire cette annonce de manière un peu hâtive et spectaculaire tard hier soir.
Nous voulons alerter le public sur le fait que nous avons déterminé que 2 puissances étrangères, l'Iran et la Russie, ont entrepris des actions pour influencer l'opinion publique dans notre élection. Pour intimider les électeurs, provoquer des troubles sociaux et causer du tort au président Trump.
Alors immédiatement, ce patron du renseignement nommé par Donald Trump a été accusé de servir les intérêts de son patron. Parce que vous allez le voir, c'est pas tellement à lui que ces interférences étrangères causent du tort. Certains électeurs américains ont reçu ces derniers jours un email étrange et menaçant, semblant émaner d'un groupe d'extrême droite bien connu. Il disait « Nous savons que vous êtes démocrate, mais vous allez voter pour Donald Trump, sinon nous nous en prendrons à vous ». Email accompagné de détails personnels comme adresse et numéro de téléphone pour bien faire comprendre au destinataire qu'il est sous surveillance. Email en fait envoyé par l'Iran qui s'est procuré des données sur les électeurs américains, tout comme la Russie d'ailleurs.
Effectivement. Xavier, le rendez-vous du jour, c'est bien sûr le dernier débat télévisé entre Trump et Biden.
Oui, alors le premier avait donné lieu, on s'en souvient, à un pugilat inaudible. Le deuxième n'avait pas eu lieu du tout pour cause de Covid-19 à la Maison-Blanche. Et donc, pour cet ultime affrontement ce soir, les micros seront coupés à certains moments pour éviter la cacophonie. Donald Trump a déjà dit que c'était injuste, que la modératrice choisie de NBC était partiale. Mais pour lui, c'est un peu la dernière chance de renverser la tendance défavorable devant une audience nationale. Écoutez l'enjeu de ce débat résumé sur ABC de manière musicale par Matthew Dowd. C'est un stratège républicain qui a mené la campagne de réélection de George Bush fils.
Joe Biden, c'est comme une petite musique facile à écouter. Et Donald Trump, c'est plutôt du heavy metal. Et là, les gens ont choisi d'écouter la musique facile. Et Joe Biden, tout ce qu'il a à faire, c'est de convaincre les gens qu'ils ont fait le bon choix. Continuer à écouter. Donald Trump, lui, doit convaincre les gens de changer de chaîne, de revenir au heavy metal, alors qu'ils n'ont pas forcément très envie de heavy metal. Et c'est ça son problème.
Donc, je vous résume. Joe Biden, c'est ça. De la musique d'ascenseur. Et Donald Trump, c'est ça. Voilà, je vous laisse choisir ce que vous préférez écouter.
Si
à demain.
Vous, si vous voulez bien, je vais prendre l'ascenseur. À demain, l'œil de Xavier Yvon. Et vous, Christophe ? Ascenseur ou heavy metal ?
Heavy metal, mais là, ça semble plutôt à du trash metal. Hein ?
Peut-être. C'est pas
un peu trop rapide quand même.
En tout cas, c'était l'œil de Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Le journal de campagne, c'est tous les soirs à 19h. Et puis tiens, on va rester en musique. Il fait partie de ces artistes qui créent l'événement à chaque sortie d'album. Paul McCartney est de retour.
Avec un nouvel album solo enregistré pendant le confinement, son titre, McCartney 3. Alors, comme vous allez me demander, ou plutôt me dire, seulement 3, Isabelle, je vais vous
seulement 3.
Voilà, je vous répondrai, merci, que le premier album solo de Paul McCartney remonte à 50 ans. Il s'appelait McCartney tout simplement. Cette fois, il s'agit de chansons créées ou retravaillées pendant le confinement. Angèle Châtelier.
En 1970, la même année que la séparation officielle des Beatles, Paul McCartney publie son premier album en solo. Dessus, il fait tout, la guitare, la basse, la batterie, le piano et même le xylophone. Puis avec son groupe Wings, il publie d'autres albums les années qui suivent, entouré d'autres musiciens. Il revient à ses premières amours en 1980 avec McCartney 2, un album qu'il compose là aussi entièrement seul. C'est donc McCartney 3 qui sortira le 11 décembre. Un album comme ses prédécesseurs, sur lequel Paul McCartney fait tous les instruments. Ce n'était pas vraiment prévu, mais le confinement l'a poussé, ennui oblige, à prêter une oreille à ses esquisses musicales perdues ou inachevées. Et sur ses réseaux sociaux, il nous le révèle, il s'agissait de faire de la musique pour soi-même, plutôt que de faire de la musique pour un travail. À croire que c'était le cas pour Egypt Station, son dernier album, en tête des ventes aux États-Unis à sa sortie il y a 2 ans.
Carnet et Angèle Châtelier du service culture d'Europe 1 dans votre journal. Christophe Lamarre, on vous dit à demain.